Europe 1. Comme chaque samedi de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine.
Bonjour Laurent Lagros.
Bonjour Patrick Cohen.
Directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste de l'obésité. On en apprend chaque jour un peu plus sur le profil des malades les plus sévères du Covid-19. Les premières études chinoises ne disaient rien de ce qui apparaît aujourd'hui comme un facteur majeur des cas les plus graves en Europe et aux États-Unis. L'obésité, on sait maintenant que c'est un élément absolument déterminant.
L'obésité est en effet une comorbidité parmi d'autres, oui, mais tout porte à penser qu'elle est un facteur de risque majeur des formes critiques et mortelles de la Covid-19. Et au passage, le diabète, l'hypertension artérielle ou bien encore le syndrome métabolique viennent ajouter aux risques liés à la surcharge pondérale à proprement parler.
Oui. Qu'est-ce qui a été montré précisément récemment, Laurent Lagros ?
Bien, nous disposons déjà d'études anciennes, par exemple à l'occasion de la grippe asiatique entre 57 et 60 ou encore la grippe de Hong Kong en 1968. Il avait déjà été rapporté que l'obésité et les maladies métaboliques comme le diabète augmentaient la mortalité, la sévérité et les complications de la maladie virale. Donc ce lien obésité-sévérité est aujourd'hui à considérer tout particulièrement dans le cas de la Covid-19, puisque malheureusement près de la moitié des populations des pays industrialisés est obèse ou en surpoids. Alors nous disposons de données très récentes des équipes des professeurs Patou et Jourdain à Lille qui sont très parlantes. Il y a en effet sept fois plus de formes sévères de la Covid-19 nécessitant une ventilation mécanique chez les sujets obèses par rapport aux sujets minces de même âge et de même sexe. Ouais. Donc face à la Covid-19, les sujets obèses ou en surpoids méritent une attention toute particulière, ce qui d'ailleurs vient d'être récemment confirmé et relayé par le ministère de la Santé.
Oui, ils doivent vraiment être considérés comme des sujets à risque. Du point de vue physiologique, comment est-ce qu'on peut expliquer ce lien entre obésité et formes sévères de la Covid-19 ?
Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que l'obésité se caractérise par l'hypertrophie et l'accumulation du tissu adipeux. Bien sûr, la fonction principale de ce tissu, c'est de stocker, gérer des acides gras, dans le but de les déstocker quand le besoin de l'organisme se fait sentir. Le tissu adipeux est donc un véritable réservoir à carburant énergétique, stocké dans de grosses cellules que l'on appelle les adipocytes. Alors le tissu adipeux, et c'est très intéressant, pourrait également constituer un réservoir potentiel à virus SARS-CoV-2, car ce virus SARS-CoV-2 montre une très forte affinité pour une enzyme qui s'appelle l'ACE2, qui tient lieu en fait de récepteur pour permettre au virus de pénétrer à l'intérieur de nos cellules. Et cette affinité pour le SARS-CoV-2 est de l'ordre de 10 à 20 fois supérieure à celle qui avait été précédemment rapportée pour le SARS-CoV, vous vous souvenez, celui de 2002-2003. Oui. Et de plus, nous savons aujourd'hui que cette porte d'entrée ACE2 pour le virus est très exprimée, fortement exprimée dans le tissu adipeux. Enfin, dernier point, c'est très important, le tissu adipeux contient également, en plus des adipocytes et autour des adipocytes, des cellules immunitaires en grand nombre, principalement les macrophages. Alors, ces fameux macrophages sont la source de signaux inflammatoires, d'espèces dites réactives de l'oxygène, les radicaux libres, les ions oxygénés, les peroxydes, qui sont potentiellement délétères. Donc, ainsi, et au-delà de la masse, c'est la composition cellulaire et moléculaire du tissu adipeux, en particulier cette infiltration des cellules immunocompétentes, qui détermine la pathogénicité et le risque lié à l'obésité.
Laurent Lagros, votre équipe INSERM à l'Université de Bourgogne a récemment, c'était l'an dernier, réussi des expériences sur des souris. Vous aviez réussi à allonger la durée de vie de souris obèses en enrichissant leur organisme par des antioxydants. Je résume à grands traits, hein, pardon, mais disons que ça, ce que j'ai compris, c'est que ça contribue à renforcer leur défense immunitaire. Est-ce que ça peut éventuellement servir ou aider des humains à se protéger du Covid-19 ?
Alors, dans les études que vous mentionnez à l'instant, nous avons utilisé effectivement le modèle murin, le modèle de souris, et nous avons expérimentalement évité la colonisation précisément de ce tissu adipeux par les macrophages que j'évoquais à l'instant. Alors, chez les patients obèses et dans le contexte de la Covid-19, la situation est évidemment bien différente puisque nous avons affaire à des macrophages qui sont déjà résidents, déjà présents dans le tissu adipeux des patients. Il serait donc ici assez illusoire de les éliminer, mais l'objectif serait plutôt de les contrôler et de parvenir à éteindre leurs propriétés pro-inflammatoires redoutées. Alors l'astuce, quelle est-elle? L'astuce pourrait être d'appliquer ce concept de la vaccination et de l'immunité dite entraînée ou éduquée, c'est la trained immunity. Comment en fait éduquer les macrophages résidents du tissu adipeux afin de bloquer les conséquences délétères de l'obésité sur la résistance et la survie au SARS-CoV-2 et à la maladie COVID-19. Alors cette éducation de notre système immunitaire pourrait être possible grâce notamment à la vaccination BCG qui est, je le rappelle, composée de bacilles bovins atténués et vivants. Il pourrait ainsi aider à contenir finalement cette réponse inflammatoire exacerbée des macrophages qui résident dans le tissu adipeux. Et on sait, ce sont les études les plus récentes qui l'ont démontré, les capacités d'apprentissage existent effectivement pour ces cellules monocytes et macrophages. Donc pourquoi pas les macrophages du tissu adipeux et pourquoi pas tenter de contrôler cette réponse inflammatoire chez les patients obèses et d'éviter ainsi ce fameux boost inflammatoire tellement redouté.
Vous étiez venu il y a quelques semaines ici même nous parler de la piste du BCG, vaccin contre la tuberculose qui pourrait jouer un rôle protecteur. Des essais sont en cours, on l'avait dit. Vous avez avancé dans vos observations ?
Eh bien, pour l'heure, nous disposons d'arguments dits physiopathologiques, je viens de les évoquer à l'instant, et nous disposons de données écologiques. Hein, elles montrent assez clairement, pour l'instant, il s'agit de corrélation et d'observation, mais elle montre néanmoins que là où la vaccination BCG est largement et systématiquement pratiquée, il y a visiblement moins de cas et surtout moins de cas sévères de la maladie COVID-19.
Vous l'avez observé dans plusieurs points du monde. Il y a notamment le cas de l'Allemagne. Vous pensez que ça peut être une explication, la différence entre l'ex-RFA, l'Allemagne de l'Ouest, et l'ex-RDA à l'Est ?
Oui, en effet, l'ex-Allemagne de l'Est a vacciné avec le BCG très largement, historiquement, de façon systématique et encore récemment jusqu'à l'aube des années 2000, quand la ex-RFA, elle, a moins vacciné. La vaccination obligatoire s'est arrêtée en 1975. Donc effectivement, quand on compare les Länder ex-RFA et ex-RDA, il y a une différence assez frappante avec beaucoup moins de formes sévères, notamment en ex-Allemagne de l'Est. Mais surtout, aujourd'hui, nous attendons les résultats des essais de vaccination qui sont en cours, je le rappelle, en cours aux Pays-Bas, en Australie, en Allemagne, aux États-Unis et également en France, à l'Institut Pasteur de Lille.
Et vous pensez qu'il faut prendre les devants, faire des précommandes de doses vaccinales en attendant ?
Oui, en effet, et je pense qu'il est de fait possible, et je dirais même nécessaire, d'avancer dès maintenant sur cette voie. Nous pouvons, nous devons prendre l'initiative en lançant sans tarder l'importation, ainsi que la fabrication ou refabrication de doses vaccinales BCG dans notre pays. Aujourd'hui, nous connaissons dans le monde une pénurie des doses vaccinales BCG. Elles sont contingentées. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce sont 50 à 100 millions de personnes qui devraient être vaccinées contre la tuberculose chaque année dans le monde et qui ne le sont pas, faute de vaccins en quantité suffisante. Donc, et dans le pire des cas, dirais-je, si même d'aventure le BCG n'était pas la bonne piste contre la COVID-19, les gens qui doivent l'être pourraient ainsi être vaccinés et correctement vaccinés contre la tuberculose, qui est une maladie infectieuse qui reste redoutée.
Et qui fait encore aujourd'hui 1,5 million de morts dans le monde. Merci beaucoup Laurent Lagro, merci d'avoir été en ligne avec nous. Europe 1.